Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, si certains ont la velléité que le sermon devienne interactif avec des micro-baladeurs, le Seigneur nous invite pourtant à être dans le silence. En effet, il nous dit souvent dans le silence des paroles qui, quand elles sont accueillies, sont nourrissantes et transformatrices de notre misère en lumière. Si bien que le silence doit dépasser l'écoute du simple sermon, bien qu'il ne soit pas inutile de l'écouter, puisqu'il se veut tenir vos esprits dans la vérité de la révélation chrétienne. En effet, le mystère de la Sainte Trinité se réfléchit dans la révélation chrétienne. C'est un mystère lumineux, de même que dans trois soleils contenus dans l'autre, dit saint Jean Damascène, il y aurait une seule lumière par compréhension intime. Si vous réunissez trois cierges de dévotion avec chacune leur flamme, il n'en restera qu'une. C'est à travers cette flamme qu'il nous faut appréhender les noms de Dieu. Tous les noms donnés à Dieu sont impuissants à laisser deviner son mystère. On dit de Dieu qu'il est bon, mais il est bon comme personne n'est bon. La bonté est son essence même. Il est lui-même bonté, totale bonté. Et jamais le mot bonté ne peut avoir une réalisation comparable à celle qu'il a quand il est donné à Dieu. Voyez-vous, il faut faire comme bien souvent fait un organiste. Il faut transposer, non les notes de musique, mais les mots des imperfections de notre langage humain pour les mettre dans la vraisemblance de Dieu. Alors, tout devient sublime, tout devient beau. D'ailleurs, lorsque l'on parle de la beauté, c'est la même chose, beauté de la nature en efflorescence, beauté d'une action quand quelqu'un, par exemple, donnera sa vie pour la justice, pour la vérité. Et alors, le mot beauté sera transposé. Mais toutes les beautés d'ici-bas sont encore limitées. Le mot beauté n'est pleinement réalisé qu'en Dieu, dont on peut dire non pas qu'il a la beauté, mais qu'il est la beauté, l'être même, l'amour, la vérité. Il est tout cela. Tous ces beaux noms de Dieu, bonté, beauté, être, amour, vérité, quand ils sont portés à leur degré le plus haut, fusionnent un peu comme les rayons du spectre solaire qui, rassemblés, donnent la lumière blanche. Et l'on peut dire que Dieu est bonté, qu'il est être, qu'il est amour. Tous ces noms nous engagent dans une voie qui est vraie, mais dont le terme s'enfonce dans un mystère d'unité et de transcendance. Un mot qui est cher aux théologiens pour désigner toute cette réalité divine, c'est déité, deltas. Ce mot désigne Dieu, non pas seulement tel qu'il peut être connu à partir des créatures auxquelles il communique quelque chose de lui, mais dans ce qu'il est de plus intime, de plus caché, de plus haut. Pour vous faire comprendre, je citerai le cardinal Journet qui nous dit « Je comparerai avec le mot « humanité », la vie, la corporéité, la sensibilité sont communes à l'animal et à l'homme, bien sûr à des degrés différents. Mais quand je voudrais distinguer l'homme de l'animal, je dirais « dans l'homme, il y a l'humanité ». Et je l'aurais désigné par une réalité qui n'est pas donnée en participation aux animaux. Eh bien, quand je dis « déité », j'entends désigner Dieu parce qu'il y a en lui d'imparticipé, de trop mystérieux pour être communiqué. Déité et Trinité sont des mots synonymes qui désignent Dieu dans son mystère le plus profond. Le mot Trinité ne se trouve pas, à vrai dire, dans la Sainte Écriture. Il a été forgé par l'Église dès le début, quand elle a voulu désigner cette profondeur de Dieu, soulever un peu le voile cachant cette déité. Car il faudrait, au commencement de ce que je viens de vous dire, citer les textes d'Isaïe, « Vous êtes vraiment un Dieu caché, Dieu d'Israël. » Ce qui va donc soulever un peu ce voile de la profondeur de Dieu, ce sont les noms de Père, Fils et Saint-Esprit. Donc un nom pluriel. Ainsi, vous le voyez, le mot le plus caché pour désigner la profondeur divine, la déité une de Dieu un, ce sera un nom pluriel. Comme pour faire éclater davantage le langage et déconcerter nos pensées, dirais-je. Le Père, le Fils, l'Esprit. Mais je ne penserai pas à trois divinités, un seul Dieu qui est, dans l'unité de la même essence, Père, Fils et Esprit. Eh bien, ce nom pluriel de Dieu unique, nous l'apprenons aux petits-enfants, en aidant leurs petites mains à faire le signe de la croix. Nous les initions, les orientons pour autant qu'il nous est possible. C'est souvent la maman qui dira ses beaux noms à son petit-enfant dès le début, pour mettre sa vie sous l'ombre de la Sainte Trinité. Ils ne savent pas le sens de ces mots, Père, Fils et Esprit, mais à la manière dont leur maman leur en parlera, à cause de la profondeur avec laquelle ces mots auront été dits, par elle ou par les grandes personnes en qui ils ont confiance, ils comprendront non pas les précisions, mais l'essentiel qu'un amour est caché sous ces mots et que c'est la plus haute chose qu'on puisse leur dire. Un peu plus tard, au catéchisme, ils apprendront qu'ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que c'est à ce moment-là qu'ils sont entrés dans l'Église. L'Église, Saint-Augustin, est rassemblée des quatre vents dans le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la grande révélation trinitaire dont ce dimanche en veut être l'éclat. Toutes les grandes choses, il faut les donner aux petits-enfants. On dit « ils ne comprennent pas ». En nous, est-ce que nous comprenons bien nous-mêmes ces grands mystères ? Non. Ce sont des choses qui nous dépassent et c'est bon d'avoir à dire aux petits-enfants et à garder dans nos cœurs des trésors qui nous dépassent. Où est ton trésor ? Là est ton cœur. Et si ces choses sont grandes pour nous, il est impossible que nous nous tournions vers elles, si peu que soit, sans que quelque chose ait grandi en nous. Aux petits-enfants, on parlera du petit Jésus dans leurs premières années. Puis on leur dira « il est Dieu ». Et cette image du petit Jésus qui est Dieu suffira pour faire sortir de leur cœur de grands actes de foi, d'amour, très silencieux, comme dans une nuit intérieure, mais une nuit éclairée par ce beau nom de Jésus qui les fait entrer dans le mystère le plus haut de la révélation chrétienne, le mystère de la Sainte Trinité, celui d'une pluralité de personnes à l'intérieur de la divinité. C'est le mystère suprême, le plus caché, le plus silencieux. Il est évoqué dans la prière de l'Église par des paroles très brèves qui semblent s'arrêter au bord de cet océan. Ces mots, Père, Fils et Esprit, forment comme un vase dans lequel est contenu l'abîme de la profondeur divine, de son amour, de sa lumière, mystère ineffable auquel toute la révélation chrétienne est suspendue, si bien que vous suspendez à la Trinité tout entière toute votre foi. C'est l'ombre de son mystère qui donnera du prix aux paroles que vous direz dans votre prière, aux actions que vous ferez au cours de la journée, qui donnera à toute votre vie un sens ineffable que personne ici-bas ne peut exprimer d'une manière suffisante, mais dont un jour nous verrons la profondeur. Dans les prières de l'Église, le mystère de la Sainte Trinité, presque toujours, n'est évoqué que très brièvement. Vous aurez la préface de la Sainte Trinité, le credo, où l'on parle du Père, du Fils et de l'Esprit, mais le plus souvent, c'est le signe de la croix qui l'évoquera, ou bien la doxologie du « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Mais si peu qu'elle soit nommée, elle est toujours, selon le mot de Racine, mais avec un sens combien transposé, invisible mais présente. Vous voyez que la Trinité, bien que rarement nommée, est toujours présente, de même que ce sont les choses les plus hautes dont on parle le moins, parce qu'elles sont les plus profondes et les plus cachées. C'est plus difficile de parler des racines d'un arbre que de sa floraison. Alors, soyez fleuris, chers amis, de cette présence trinitaire. Plus les racines du Père, du Fils et du Saint-Esprit seront ancrées dans vos vies, plus vous serez beaux et odorants d'une odeur que nous trouvons chez les saints. Ce mystère de la Sainte Trinité ne peut être, disons-le, connu par la seule raison. Nous pouvons appréhender une certaine connaissance de Dieu, mais il nous manquera toujours quelque chose. Prenons un exemple. Un jeune homme passe chaque matin sous ma fenêtre, allant à son travail, toujours à la même heure. Je l'observe, et en le voyant de l'extérieur, je connais de lui pas mal de choses. Mais un jour, voici que ce jeune homme, au lieu de continuer sur la route, vient sonner à ma porte. « Je voudrais vous confier quelque chose. C'est un secret que je porte en moi depuis longtemps. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais c'est trop lourd et je viens vous le confier à vous qui êtes prête. » Alors, vous le voyez, j'ai maintenant deux connaissances de cet homme, l'une de l'extérieur, l'autre par la révélation qu'il m'a faite de son intérieur. Les deux sont vraies et elles ne se contredisent pas. Il n'y a pas deux réalités, mais deux approches de cette unique réalité, deux manières de la connaître. À partir de l'extérieur, et c'est une connaissance précieuse, à partir de la révélation qui m'est faite, et celle-là seule est décisive, car elle m'introduit au cœur du mystère même de cet homme. Cette comparaison, nous pouvons l'appliquer à Dieu. Je peux en effet connaître par le monde comme le premier moteur nécessaire pour soutenir l'existence de l'univers. Je le connais alors en remontant vers lui à partir de ses effets, comme la frange de son manteau. Je peux le connaître par la révélation, mais c'est une chose qui peut nous paraître assez folle. Quelle bonté de Dieu de nous donner sa révélation. Il viendra me parler de ce qu'il y a dans la profondeur de son être. Il va me dire que pour moi, il a un amour merveilleux, total, que la raison ne suffisait pas à me connaître, qu'il est Père, Fils et Esprit. Ces trois mots qui forment le vase dans lequel est contenu le fond de son mystère, nous n'avons finalement aucun droit à entrer dans l'univers de ce mystère. Notre seul droit, notre seul pouvoir, c'est à partir de la création de remonter vers lui dans une action de grâce pour nous avoir mis au monde et conservé. Mais c'est tout. Qui est-il ? Je peux bien, à partir des créatures, savoir qu'il y a en lui bonté, beauté, condescendance, amour, mais à ces mots-là, je ne pourrai jamais donner leur valeur la plus haute, la plus intense. Dans cette découverte, je peux déjà aller plus loin que ce que peut saisir mon cœur, être débordé, et c'est déjà merveilleux d'être débordé. Mais que Dieu en lui-même soit Père, Fils et Esprit, et que je le verrai face à face, cela est totalement au-dessus de ce que ma nature peut exiger. Il faut donc toute la révélation, la foi théologale, pour entrer progressivement dans les profondeurs, les largeurs, les hauteurs du tout autre. Il y aurait encore tant de belles choses à vous dire, mais je ne voudrais pas vous voir vous endormir. Il est temps de sortir de votre silence pour professer avec foi et avec conviction le chant du Credo. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.